La première.
Le samedi.
De 10h à 11h.
Dans quel monde on vit ?
Dans quel monde on vit ?
Pascal Claude.
Des étoiles et qui sait, peut-être des rêves qui deviendront réalité. Bonjour à vous. Des étoiles sur un drapeau. 12 étoiles pour être précis, celles qui font scintiller l'Europe. L'Europe qui est en fête ce samedi. Il y a 60 ans, une étape clé de la construction européenne était franchie. Les traités de Rome étaient signés. 60 ans plus tard, quelle Europe faut-il espérer? La question sera posée. Et si l'Europe n'était pas aussi fatiguée qu'on le croyait? C'est un titre choc du New York Times. Titre inventé par Grégoire Paulet dans Tous, son nouveau roman. Qu'est-ce que sa fiction dit de vrai sur notre époque et sur notre Europe, nous lui poserons la question. L'été 1936, l'Union européenne est encore loin d'être née, mais la guerre civile voit le jour dans un pays du continent européen. Nous sommes en Espagne, les républicains sont face aux nationalistes et l'Église catholique soutient le camp de Franco. Révolution, délation, liberté, horreur, déni et saloperie. Ces mots sont utilisés et immortalisés par Lydie Salvert dans Pas pleurer, le Goncourt 2014. Pourquoi ces mots sont-ils toujours d'actualité? Lydie Salvert est notre invitée. Aujourd'hui, en Europe comme ailleurs, un mot s'impose avec la brutalité d'un slogan, le système. Et en France, tous les candidats à la présidentielle prétendent qu'ils sont anti-système. Alors, est-ce vraiment le cas? François de Smet nous le dira. Sa chronique Pop Philo est à suivre peu avant 11h. Plus éblouissant et plus éclairant encore que les étoiles, le flash de l'appareil sonore d'Hélène Verrier. Voici son condensé de l'actualité, sa photo sonore.
À l'aéroport de Bruxelles National, le temps s'est arrêté à 7h58.
Le moment est maintenant venu d'observer une minute de silence à la mémoire de toutes les victimes du 22 mars.
Montrer qu'on est toujours là, qu'on est debout.
Le mardi 22 mars 2016, nous avons vu le pire, mais aussi le meilleur de l'humanité.
On est là, il ne faut pas avoir peur, parce que ça peut arriver encore à tout moment.
C'est l'attaque que redoutaient les autorités britanniques depuis des mois.
Les terroristes ont choisi de frapper le cœur de notre capitale.
Londres est la meilleure ville du monde et nous ferons face ensemble à ceux qui veulent nous nuire et détruire notre mode de vie. Les Londoniens ne se laisseront jamais intimider par le terrorisme.
Londoners will never be cowed by terrorism.
La photo sonore d'Hélène Verrier. Bonjour Lydie Salvert.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Si vous êtes de passage en Belgique ces jours-ci, c'est parce que votre roman Pas pleurer fait l'objet d'une adaptation théâtrale. Ça se passe en ce moment au Théâtre de Poche à Bruxelles. Vous l'avez vu, cette pièce, jeudi soir. Qu'est-ce que vous avez ressenti?
Mais j'étais très contente. Je redoutais. Je redoute d'être la spectatrice de mes textes parce que je suis en général à l'affût de ses faiblesses. Mmh. Et là, j'ai oublié que j'étais... Mmh. L'auteur du texte en partie. Mmh.
Mais voir ces mots prononcés, c'est quand même quelque chose de particulier.
Oui, ce que je trouvais, c'est qu'il y avait à la fois une fidélité à l'esprit et à la lettre du texte, et en même temps quelque chose de très très singulier dans l'appropriation qu'en fait Denis Lojol. Mmh. Il en fait sa chose. Il me la vole.
Et vous êtes d'accord?
Et je suis d'accord, je me laisse voler avec plaisir et presque violer avec plaisir dans cette histoire.
Bon, vous êtes avec nous ce matin jusqu'à 11h, Lydie Salvert. Bonjour Grégoire Paulet.
Bonjour.
Vous êtes un habitué de ce magazine, vous venez régulièrement commenter l'actualité. Et ce matin, vous allez aussi nous présenter tous votre nouveau roman. Et certaines scènes, d'ailleurs, dans le livre, se déroulent à la RTBF. Il y est même question d'une émission de radio qui a pour titre « Qui a dit qu'elles tourneront ?» Toute ressemblance avec des émissions existantes serait purement fortuite, Grégoire?
C'est clairement un hommage.
Un hommage, quoi donc?
Un hommage tout à fait explicite à cette émission-ci. Et en général, un hommage au rôle des médias dans le travail démocratique, puisque le roman parle vraiment de ça.
Et autour de la table également ce matin, Geneviève Dama. Bonjour Geneviève.
Bonjour.
Vous êtes écrivain. Bonjour Thierry Fiorilli.
Bonjour.
Vous êtes, vous, journaliste, rédacteur en chef du Vif, l'Express. Et enfin, Fabien Senier est avec nous. Bonjour Fabien.
Bonjour Pascal.
Vous êtes, vous, enseignant dans des écoles de commerce et spécialiste du monde de l'entreprise. Quelle Europe faut-il espérer? Dans très peu de temps, c'est la question qui sera abordée. Mais d'abord, votre temps fort de l'actualité. Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, en particulier au fil de ces 7 derniers jours? Lydie Salvert, pour commencer. Que retenez-vous?
Moi, je suis obsédée par les élections présidentielles en France. et désespéré en même temps. Je pense qu'en plus, les attentats tout récents vont faire monter le Front National de quelques points. Front National qui se porte déjà très bien en France. Donc je suis inquiète.
Thierry Fiorilli.
Cette initiative d'un youtubeur français installé aux États-Unis, je pense, Jérôme Jarre, habitué de l'humour, et qui a lancé un appel pour contribuer à la lutte contre la famine qui est occupée à s'installer dans 4 pays en Afrique. 20 millions de personnes quand même qui sont menacées. En 10 jours, il a obtenu l'équivalent de 2 millions de dollars. C'est très peu par rapport aux 4 milliards 4, je pense qu'il faudrait. Mais ça a le mérite, un, d'exister, et de montrer que même là où on l'attend pas, parfois, l'homme, connu ou pas connu, peu importe, peut mobiliser pour des bonnes actions. Et puisque ça fait partie du web, qui est souvent décrié, ben, je pense que c'est la preuve qu'il a des très bons côtés.
Geneviève.
Alors, moi, c'est un tout petit article dans Libération, dont le titre est « Ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas ». Et donc, c'est des témoignages d'éleveurs qui élevaient des cochons. Et puis, à un moment, les truies qui ont cessé de pouvoir porter des petits sont appelées truies de réforme. Et en fait, on les abat, tout simplement, parce qu'on n'en a plus besoin. Et c'est des éleveurs qui, à un moment, ont dit « Mais en fait, c'est juste de la violence gratuite. On ne peut pas utiliser des animaux uniquement pour la reproduction. Et puis, on n'en a plus besoin. On jette. » C'est cette attitude-là, en fait, qu'ils ont. Alors, certains ont quitté leurs élevages, ont fait d'autres choses. Et je trouvais que c'était assez porteur de... En fait, parfois, on fait des actes qui ne servent à rien, qui sont juste de la violence gratuite. Et on peut passer à autre chose et imaginer autre chose. Voilà.
Fabien Saunier.
C'est moins mon temps fort qu'une recherche active pour ramener quelque chose de l'autre bout du monde face aux attentats qu'on a chez nous, etc. Cette semaine, à la fois en Inde et en Nouvelle-Zélande, il y a une rivière qui a reçu le statut de personne humaine ou un statut complètement équivalent à celui d'une personne humaine. Les motivations sont un peu différentes. Le Gange en Inde, c'est plutôt écologique, c'est-à-dire que il y avait beaucoup de pollution et c'était des procédures judiciaires un petit peu compliquées. Aujourd'hui, quelqu'un qui pollue le Gange, il fait du mal à une personne humaine. Et en Nouvelle-Zélande, la rivière s'appelle le Whanganui, c'est moins connu, mais la motivation était plutôt qui a des droits sur la rivière entre les autochtones maoris ou le gouvernement néo-zélandais. Maintenant que c'est une personne, il n'y a plus de question de droits de propriété sur la rivière et ça contente tout le monde. Voilà, est-ce que c'est une curiosité ou est-ce que c'est une inspiration? Je laisserai chacun en juger.
Grégoire Pollet pour terminer.
Moi, j'ai épinglé le récent meeting de Benoît Hamon à Bruxelles pour une raison très simple, c'est que j'observe ce phénomène curieux. L'Europe était jadis un sujet qui ne vendait pas. Et puis, depuis qu'il y a le candidat centriste d'En Marche qu'il a utilisé comme argument positif et que ça lui a donné une certaine stature, on voit une sorte de mouvement inverse. Alors, c'est un peu ridicule parce que ça fait un peu girouette, mais quand même, c'est intéressant de voir que l'Europe devient un argument de campagne alors qu'il était normalement l'anti-argument par excellence.
Eh bien, nous en parlons tout de suite de l'Europe. Ce samedi, les dirigeants européens doivent signer une déclaration sur l'avenir de l'Europe. Ils se retrouvent dans la capitale italienne à l'occasion du 60e anniversaire des traités de Rome. Alors, quelle Europe pour demain? Au début du mois, la Commission avait dans son livre blanc présenté des scénarios. Écoutez le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker.
La destinée de l'Europe à 27 est entre nos mains. Entre nos mains, oui. Mais elle est d'abord et avant tout une affaire de cœur et une affaire de valeur.
Jean-Claude Juncker, donc le président de la Commission européenne. Quelle Europe faut-il espérer? C'est la question posée. Grégoire Pollet, vous avez écrit le scénario d'un film intitulé « Dans les coulisses du traité de Rome » et dans votre nouveau roman, il est beaucoup question de l'Europe et vous l'avez imaginé, l'Europe de demain. Vous écrivez « Tout le problème européen se dissolvait pour les Européens dès que fut levé le problème de la distance énorme qui les séparait du Parlement et des décisions. » Un Parlement direct et une politique européenne, mais comment ne l'avait-on pas exigé plus tôt? Il est là, Grégoire, l'essentiel de votre souhait pour l'Union européenne de demain, voire de tout de suite?
Bon, alors, d'abord, tous, le livre dont vous venez de citer une phrase est un roman,
oui,
et donc
sûr.
Cette phrase est une phrase de personnage. Hein. Cela dit, pour rebondir là-dessus, c'est vrai que ce qu'on peut espérer pour l'Union européenne maintenant, c'est que le Parlement progresse dans la voie démocratique. C'est-à-dire que vous savez que depuis que le Parlement européen existe, il a de plus en plus avancé vers la démocratie. Au début, il avait un pur rôle consultatif, il n'était pas élu au suffrage direct. Et puis après, progressivement, il y a eu les élections au suffrage direct. Maintenant, il peut intervenir dans beaucoup de décisions, mais pas dans toutes les décisions. Et tant que le Parlement ne sera pas un vrai Parlement, c'est-à-dire un Parlement qui a barre sur l'exécutif, hein, tant que le Parlement européen ne pourra pas décider de toutes les questions, eh bien, il y aura un déficit important de sentiment démocratique en Europe. Et l'Europe, de ce point de vue-là, n'aura toujours pas atteint son but, son sens. Et donc, l'extension du pouvoir du Parlement et aussi que les gens puissent voter directement pour les élus au sein des partis politiques européens et pas à travers la petite fenêtre des partis nationaux, comme ça se passe pour l'instant. Il faut qu'il y ait un sentiment d'immédiateté ou de représentation directe entre les citoyens européens et le Parlement. Sinon, ce Parlement ne sera jamais qu'un demi-parlement. Et ça, c'est la démocratie ne peut pas le supporter.
Fabien Sonnier, vous partagez ce même rêve pour l'Europe de demain ?
Je m'interroge sur la capacité des citoyens à voter pour des sujets de compétences européennes. C'est-à-dire que je suis pour plus de démocratie. Je trouve que c'est très bien que le Parlement prenne plus de poids par rapport à un Conseil européen où les États nationaux disent ce qu'ils veulent faire. Mais les États nationaux eux-mêmes sont des élus démocratiques. Et est-ce que si les domaines de compétences de l'Europe, c'est par exemple une armée européenne, puisque dans le livre de Grégoire,
on
est question de ça, est-ce que les populations européennes peuvent faire les bons choix pour laisser l'Europe donner ou ne pas donner un soutien armé à une autre région du monde qui, pour beaucoup, ne les concerne pas immédiatement? Donc, moi, je suis pour plus de démocratie directe, mais peut-être à des échelons beaucoup plus locaux. Et je pense que l'Europe, effectivement, doit essayer de se renouveler. J'ai des espérances pour l'Europe, mais c'est plus sur... Depuis 60 ans, on a réussi finalement le projet de faire un marché commun qui nous a apporté à la fois la paix et une croissance économique. Aujourd'hui, ces deux éléments-là ne sont plus des justifications suffisantes que pour étendre l'Europe. Est-ce que l'Europe pourrait être le premier continent qui va avoir un modèle post-développement économique ? L'Afrique, la Chine, les États-Unis vont continuer ça. Est-ce qu'on peut aller vers quelque chose où, au lieu d'occuper notre temps à travailler pour que le monde soit meilleur demain, est-ce qu'on peut occuper notre temps pour que le monde d'aujourd'hui reste le plus parfait ?
Grégoire, courte réplique parce que je vous voyais sourire à propos de la compétence ou de l'incompétence du citoyen pour se prononcer sur des décisions à l'échelle européenne.
Mais toute l'histoire de la démocratie est une lutte contre cette affirmation « le peuple est irrationnel ». Toute l'histoire de la démocratie est une avancée contre cette idée-là. On a dit d'abord, les pauvres, bien sûr, ne peuvent pas voter parce qu'ils sont sans rapport avec la démocratie. Après ça, on a dit, les femmes ne peuvent pas voter parce qu'elles sont irrationnelles, encore plus. Et donc, c'est très simple, il suffit de regarder en avant plutôt qu'en arrière. Si on regarde l'histoire, disons, pour progresser, on se rend compte que la démocratie n'existe pas. La seule chose qui existe, c'est une démocratisation. C'est-à-dire une confiance toujours plus grande faite à la capacité du peuple, non pas d'un citoyen, mais du peuple, c'est-à-dire des majorités qui se forment dans un citoyen, de prendre des décisions.
Que faut-il espérer pour l'Europe de demain, Thierry Fiorilli ?
Il faut probablement espérer, quel que soit l'importance qu'on veut accorder au rôle du citoyen. Je rejoins Grégoire Pollet, c'est évidemment lui qui doit avoir toutes les cartes en main, tous les leviers, mais il vote pour, je vais dire, quel ou contre quel programme, le programme de qui. Le Parlement, il l'aurait barre sur qui, sur ce que des États décident, plus ou moins ensemble, mais souvent peut-être jusqu'à présent séparément, on le voit avec tout ce qui est le retour des populismes ou de la souveraineté nationale.
Il y a un manque de lisibilité ?
Je ne sais pas si c'est un manque de lisibilité. Je pense que c'est un manque de cohérence au niveau politique. Que veulent ces 27 États, appelons-les ainsi aujourd'hui, 27, de l'Europe ? Est-ce qu'ils veulent juste en tirer des avantages nationaux, personnels ? Ou est-ce qu'on peut aller plus loin en se disant, par rapport notamment à la sécurité, mais pas seulement, la prospérité aussi. On a ce fameux projet, c'est un terme qu'on a utilisé, qu'on utilise toujours avec l'Europe, un projet commun. Et donc du coup, on vote dans chaque pays pour ou contre un projet plus que, à mon avis, pour des gens de notre pays qui sont censés peut-être, en partie, lutter contre un projet ou le porter. C'est ça qui est compliqué, je trouve.
Et qu'est-ce qu'il devrait être, ce projet commun aujourd'hui, en 2017 ?
Je pense plus que jamais, Fabien l'a souligné, on a parlé de prospérité et de paix. C'était ça l'objectif
de départ
initial. C'est ça qui fait qu'une communauté fonctionne toujours. Elle recherche d'abord ça. Est-ce que je vis ?
Mais Fabien disait aujourd'hui, ça ne suffit plus.
Je ne suis pas sûr que ça ne suffit plus. Aujourd'hui, c'est est-ce que ces conditions sont réunies pour suffisamment de personnes ? Est-ce que suffisamment de personnes en Europe considèrent que la prospérité, la leur, est là et qu'ils vivent en sécurité ? Je pense que la crise économique, d'un côté... Est-ce qu'on vit terrorisme avec l'afflux des migrants et des réfugiés, a fait que ce sentiment de paix s'est au moins évaporé en partie, et que c'est sans doute au niveau du citoyen, plus que la lisibilité, le doute ou le rejet nourrit envers l'Europe. D'où le rôle essentiel des dirigeants de chaque État qui constituent cette Europe. Si évidemment eux-mêmes vont dans un sens de déliquescence, ça ne va pas faire avancer le schmilblick.
Vous en dites quoi, vous, Geneviève Dama ?
Moi, je pense que évidemment, on est dans un monde où beaucoup d'utopies sont mortes et que l'Union européenne est quand même pensée comme une fondamentalement parce qu'elle naît de ça, comme une union de consommateurs, et les êtres humains ne sont pas que des consommateurs. Et donc je suis retournée un peu vers la constitution du Bhoutan qui remplace le PNB par le BNB, le bonheur national brut, et donc qu'il évalue en termes de croissance et développement économique responsable, de conservation et promotion de la culture, sauvegarde de l'environnement et promotion d'un développement durable, et surtout une bonne gouvernance responsable. Et je pense qu'on n'est pas... Oui, la prospérité, mais c'est quoi la prospérité ? La prospérité, effectivement, c'est de pouvoir manger, de pouvoir... Mais on n'a pas que ça, et je pense que vraiment, dans la pensée européenne,
Il faut réinjecter de l'utopie dans le projet européen, c'est ça ?
Je pense qu'on manque d'utopie, qu'on manque de... C'est beaucoup plus excitant de se lever le matin pour quelque chose qu'on construit, une pensée... La paix, c'est déjà plus excitant que la prospérité, enfin, réduite à sa consommation. Et je pense que là, on manque de souffle et surtout peut-être de se regrouper au-delà des frontières pour penser des choses plus larges, parfois irréalisables, mais qui nous emmènent vers ailleurs.
Lydie Salver, qu'est-ce que vous vous dites en entendant, en écoutant attentivement cet échange d'idées autour de l'Europe d'aujourd'hui et de demain, de la place du citoyen ?
Je me sens tout à fait incapable de juger de ces choses. Ce que je sais, c'est que l'Europe en 1939 a été lamentable politiquement. Elle a signé les accords de Munich et s'est mise à genoux devant Hitler et Mussolini. Qu'elle s'est montrée lamentable récemment pour la Syrie, avec la Turquie, etc. En tout cas, je ne suis pas fier d'elle aujourd'hui.
Grégoire, pour conclure.
Je vous ai abattu.
C'est un défi,
non,
là,
non,
que je vous lance.
Il y a l'Europe de 1939, mais il y a aussi celle de 1945 et celle de 1957. Alors, si jamais vous regardez, par exemple, la terrible haine, la double tentative de suicide de l'Europe en 14 et puis en 39, et puis que vous regardez que l'Union européenne a été la tentative réussie de réconcilier deux ennemis absolus. Si vous regardez maintenant, vous allez en Bosnie, par exemple, là, j'y vais la semaine prochaine, vous allez voir la haine qui demeure 20 ans après le conflit. Or, les traités de Rome sont signés en 57, 12 ans après la fin du conflit. Et même avant, l'union de charbon et de l'acier, ils étaient parvenus. Les Allemands et les Français avaient décidé, OK, on va mettre en commun les deux mamelles de l'industrie guerrière, l'acier et le charbon. Comme ça, comme on aura ça en commun, on ne pourra plus jamais construire des chars les uns contre les autres. Ça, 10 ans, 12 ans après la guerre, je trouve que ce mérite-là est un modèle absolu, quelque chose de stupéfiant. Quand même, parce qu'une haine comme celle qui séparait les Français et les Allemands, on en a rarement vu.
C'est vrai. Bon, voilà une note positive pour terminer ce débat. Vous restez bien là. Les vertus de la démocratie participative au cœur de votre nouveau roman, Grégoire Paulet. La suite de la démonstration, c'est dans un instant. À tout de suite et beau samedi.
Jusqu'à 11h sur la première.
Dans quel monde on vit ?
Dans quel monde on vit ? Avec Pascal Claude.
Dans quel monde on vit ?
Le samedi.
De 10h à 11h sur la première.
Pascal Claude.
Belle matinée, beau week-end avec la première. Les écrivains Lydie Salver et Grégoire Paulet sont nos invités ce matin. Lydie Salver, votre roman « Pas pleurer », prix Goncourt 2014, vit une nouvelle vie sur scène depuis quelques jours. Nous en parlons ensemble dans les prochaines minutes. Nous feuilleterons ou nous effeuillerons également votre petit traité d'éducation lubrique. Et toujours à nos côtés, le spécialiste du monde de l'entreprise Fabien Senier, l'écrivain Geneviève Dama et le journaliste Thierry Fiorilli. Tous, c'est donc Grégoire, le titre de votre nouveau roman, le nom aussi d'un mouvement de démocratie directe. Ça se joue essentiellement en Belgique, en France et en Grèce. Et en préparant cet entretien, nous sommes retombés, Grégoire, sur cette archive d'Albert Camus. Nous sommes en 1955.
L'homme européen aujourd'hui hésite, tourne de tous les côtés, ne voyant à choisir apparemment qu'entre la servitude ou la folie. Mais je pense pour ma part qu'il y a un chemin qui passe entre la servitude et la folie, et qui est celui que les intellectuels en particulier ont pour mission de repérer au moins.
Tracer un chemin, repérer en tout cas un chemin entre la folie et la servitude, c'est un petit peu l'un des objectifs de votre roman, Grégoire ?
Peut-être. Il n'y avait pas d'objectif vraiment, il y avait surtout un constat et une frustration. Le constat qui était le divorce entre la population et les représentants politiques et la classe politique, qui me semblait et qui est évidemment un grand danger pour une démocratie. Il y avait ce constat et puis il y avait la frustration de ne pas savoir quoi faire, ne pas savoir quoi dire, de ne pas voir aucune révolution ou aucun changement important possible. Alors, comme je ne suis pas essayiste et que je ne suis pas non plus homme politique, je suis romancier, donc j'ai pris le stylo et j'ai essayé d'imaginer à partir de ce constat que les quelques mouvements d'indignation qu'on avait vus, que moi j'avais vus beaucoup en Espagne quand j'habitais à Barcelone et dont je parlais à la fin de mon dernier roman d'ailleurs, que ces mouvements d'indignation n'étaient pas restés ce qu'ils étaient, mais finalement s'étaient emportés dans un mouvement démocratique beaucoup plus large, moins idéologique, et emmenait, disons, la France, la Belgique, même la Grèce et finalement l'Europe, dans une sorte d'épopée. Voilà.
Écrire, c'est agir ?
Ça, c'est une... Je pense bien, oui, je pense qu'évidemment, écrire, c'est agir. Simplement, c'est une action qui a un effet à la fois plus multiple et plus lent. C'est-à-dire que ce n'est pas un coup de marteau, ce n'est pas une parole performative, c'est quelque chose qui agit un peu de façon souterraine, invisible, de façon non prévisible et qui peut parfois agir loin et longtemps.
Écrire, c'est agir, Lydie Salvert ?
Écoutez, plus que jamais, en tout cas, je pense qu'il faut s'engager lorsqu'on écrit. Ça ne veut pas dire être militant ou prisonnier d'un parti politique, mais je pense que toute personne aujourd'hui, je n'aurais pas dit ça il y a 5 ans, qui ne s'engage pas dans ce qu'elle écrit, fait le jeu du pouvoir dominant et le perpétue. Donc aujourd'hui, plus que jamais, je pense que les écrivains ont une responsabilité dans ce qui se passe dans le monde aujourd'hui.
Ça vous parle, Geneviève, cette notion d'engagement ?
Oui, tout à fait. Si l'auteur parvient à mettre la pensée du lecteur en mouvement, un mouvement libre, ça veut dire que le but n'est pas d'endoctriner. Je pense que ça, oui, c'est important.
Grégoire Paulet, je lis un extrait de votre roman, c'est vers la fin. Je dis que Bruxelles m'étonne, notamment parce que les transports publics sont complètement gratuits, les gens sont détendus. Je m'étonne aussi de la propreté de la ville, de la facilité que les gens ont à se parler entre eux, même sans se connaître. On s'aborde facilement dans cette ville, il n'y a pas besoin de mot de passe. Voilà le Bruxelles que vous décrivez, hein, dans une Belgique où un mouvement de démocratie participative est au pouvoir. Bref, une démocratie participative plus proche des citoyens, c'est le bonheur pour tous.
Alors, ce Bruxelles qui est décrit à la fin du roman n'est évidemment pas le Bruxelles réel. C'est le Bruxelles que ce citoyen polonais, qui est le narrateur de la dernière partie du roman, découvre quand il vient là. Et donc, il découvre effectivement que toute une série de solutions, notamment la gratuité des transports en commun, qui était une solution. Alors, il demande comment ça se fait. Et il dit oui, mais c'est une solution qui existait déjà dans les tiroirs des universités, déjà toute préparée, toute calculée, mais qui, pour des raisons de pression, de lobby, justement, n'est jamais montée au pouvoir. Maintenant que les décisions ne sont pas prises par un groupe restreint sur lequel les lobbies peuvent faire une pression importante, mais sont prises par un groupe beaucoup trop grand pour que les lobbies puissent vraiment le mettre sous pression, à savoir tous les citoyens, ce genre de projet, donc dans le roman c'est très clair, c'était la suppression, et ça c'est un projet réel en plus hein, qui existe, la suppression des incitants fiscaux pour les voitures de société. Si jamais on retire ça, on gagne de quoi rendre les transports publics gratuits. Ce genre de, je me suis amusé à utiliser ces
idées-là. Mais ce qu'on ressent aussi, c'est que tout a l'air d'aller beaucoup mieux dans ce roman. La vie est plus belle, les gens sont plus heureux. C'est ce que l'on découvre en écoutant l'extrait que je viens de lire.
Alors ça, bien sûr, c'est un roman, c'est une utopie, et c'est un roman qui a pris un parti particulier. C'est le parti du goût de l'avenir. L'idée que l'avenir n'est pas une chose que l'on subit, ni une fatalité, mais quelque chose que l'on construit. Alors, comme je vous dis, c'est un roman, et donc il y a une forme d'optimisme, de joie dans ce roman qui ne pourrait pas se trouver dans un essai. Et c'est très important, cette espèce d'optimisme, et cette espèce de joie profonde qu'il y a dedans, et cette espèce de partialité en disant, voilà, finalement, il y a beaucoup plus, il y a vraiment du bon dans chacun. Cet optimisme est bon parce qu'il est aujourd'hui devenu non seulement inhabituel, mais même insolent. Ouais. Quand vous dites à quelqu'un quelque chose de bon, vous le brossez non pas dans le sens du poil, mais à rebrousse-poil. Non, pas si vous le dites à quelqu'un, si vous le dites à propos de la société. De personne à personne, on continue de s'estimer, de se respecter. Mais de personne à société, l'usage est devenu l'invective et l'injure.
C'est donc très spinoziste ce que vous dites.
Ouais, je suis très spinoziste. On habite tout près des Pays-Bas, vous savez, ici.
Tellement d'accord. Je pense que les passions tristes sont ravageuses et qu'on devient ferme et fort dans la joie et dans la joie partagée. Et ce qui me troublait dans ce que vous avez dit, c'est que les mots que vous prêtez à cette Bruxelles sont presque mot pour mot les mots que j'utilise pour la Barcelone libertaire de 36, l'allégresse, le partage, la joie, les transports gratuits, le cinéma gratuit à l'époque. Ça m'a beaucoup troublée et touchée.
Ce sont des utopies qu'il ne faut pas oublier, sont absolument réalisables à bien des égards. Alors, ce n'est jamais le paradis sur Terre. Ça, c'est une tentation d'arrêter de penser, d'arrêter d'agir. Non, mais le mieux est vraiment possible. C'est la définition même de la démocratie.
Bon, on est d'accord, c'est un roman, vous l'avez dit et redit. Ce qui est quand même intéressant, c'est que ce qui se passe dans le livre, ça s'est passé il y a quelques années, au début des années 2010. Pourquoi est-ce que ce n'est pas devenu une réalité? Pourquoi c'est toujours aujourd'hui de l'ordre de la fiction?
Mais il y a aujourd'hui une absence de goût pour l'avenir et un fatalisme. C'est-à-dire qu'on ne pose pas la question « qu'est-ce qu'on va faire ?», on pose la question « qu'est-ce qui va nous arriver ?». Et donc, le sentiment que l'avenir est une chose que nous construisons est une chance que nous avons. Ce sentiment-là, il faut absolument le maintenir vivant. Il faut souffler, parce qu'il est tout petit, la flamme, elle est toute petite. Alors moi, je souffle un petit peu sur les braises, mais plein de gens soufflent un peu sur les braises. Énormément de gens soufflent un peu sur les braises, heureusement.
Et l'incendie, c'est pour quand?
Voilà, justement, l'incendie, c'est quelque chose qui nous tombe dessus. Et ça, c'est, vous savez, il faut être comme les Gaulois d'Astérix, là. Il ne faut craindre que ce sur quoi on n'a pas d'emprise. Si le ciel nous tombe sur la tête, effectivement, ça, on n'y peut rien. Mais tout le reste, avec nos petits bras, on peut y aller.
Fabien Senier, vous avez lu le livre et vous vouliez réagir.
Mais je voulais réagir à votre question parce que la raison pour laquelle ça ne s'est pas passé jusqu'à présent, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans le livre et qui ne s'est pas passé. C'est que la personne qui défend le mouvement a un accident terrible, perd un bras, perd une jambe. Désolé, je n'enlève pas tout le suspense du livre, mais perd un œil et du coup, pour reprendre vos termes, va pouvoir aller à la télé et battre le porno. Et c'est là qu'il y a un paradoxe parce qu'on a envie d'être optimiste, on a envie de croire dans la capacité des gens à voter sur chaque décision, mais en même temps, pour amener ce programme politique, il a fallu quelque chose de très médiatique et de très bas, finalement, ou grossier.
Grégoire.
Oui, alors en écrivant le roman, je me suis posé la question, comment est-ce qu'une révolution serait possible? Et donc, le principe du roman, c'est la vraisemblance. Et donc, c'est ça d'ailleurs qui est passionnant, c'est que vous mettez des ingrédients, vous mettez des personnages, etc. Et puis, au fur et à mesure, vous suivez, comment est-ce que cette révolution va être possible? Alors, je cherche comment est-ce qu'il serait vraisemblable. Et je suis obligé d'en passer par les médias et par, effectivement, la communication de masse. Rien ne peut se passer de massif sans passer par les médias aujourd'hui. C'est un fait dont il faut prendre acte.
Dans le livre, vous ne parlez pas vraiment de révolution. Il y a un terme que vous préférez utiliser, c'est le mot conversion. Quelle est la nuance?
Alors, dans la première partie du livre, qui se passe en France et en Belgique, on parle de révolution. Dans la deuxième, qui se passe en Grèce, là, le mouvement s'appelle effectivement métanoïa, ce qui signifie conversion. Mais c'est vrai que la notion de conversion, celle du gant qu'on retourne, prouve qu'on a tout en main. Vous voyez, la conversion, ce n'est pas acquérir quelque chose que nous n'avons pas, c'est pas attendre qu'une chose nous arrive, c'est simplement prendre ce que nous avons déjà et le mettre dans un autre sens. Et donc ça, c'est évidemment
parce que tout est là dans le fond.
Une parole d'espoir. Mais alors, tout est là, non seulement tout est là, mais tout est ici. Nous vivons dans une situation qui, si jamais nous voulons bien la regarder, est vraiment très riche de possibilités. On parlait de prospérité et de paix. je veux dire, les gens qui fuient l'Europe sont encore relativement peu nombreux. Les centaines de milliers de personnes qui fuyaient l'Europe il y a un siècle pour aller aux États-Unis parce que ici c'était la misère. Hein. Ici, c'est le contraire. Nous avons des milliers, des millions de personnes qui cherchent à venir en Europe, que nous repoussons malheureusement. Mais donc, effectivement, tout est là. Tout est et puis, de toute façon, tout est toujours là. D'accord, tout est toujours là pour se mettre à vivre libre. Il ne faut jamais attendre rien. Il y a seulement la décision libre, cette conversion, c'est de dire « moi, maintenant, tout à coup, je décide autre chose pour moi, pour ma vie ».
Grégoire Paulet, il y a encore ces beaux mots dans votre roman. « Nul ne connaît l'avenir, mais l'avenir garde parfois mal ses secrets ». Alors je me demande, quels sont ceux qu'il ne parvient pas à garder en ce moment, l'avenir ?
Alors, moi je ne sais pas jouer au pronostic. Je peux imaginer des choses, mais je ne peux pas jouer au pronostic, ça m'est impossible. Ce n'est pas du tout un roman d'anticipation politique, c'est un roman qui reprend nos dernières années récentes et qui imagine qu'elles se sont passées autrement. Je suis très mauvais pour l'anticipation. La seule chose qui est certaine, c'est que l'espoir est une chose qui ne meurt jamais. Voilà. Mais ça, ce n'était pas un secret.
Tous, un roman qui cultive l'espérance, un laboratoire qui explore de nouvelles voies démocratiques, ça rend possible au moins le temps de la fiction, ce qui est souvent présenté comme impossible. C'est signé Grégoire Paulet. Grégoire, vous restez avec nous et nous allons maintenant en Espagne avec vous, Lydie Salver. Nous sommes en 1936, l'été où la guerre civile a éclaté.
Dans quel monde on vit ?
Il faut s'unir, s'unir pour gagner. En Espagne, nous avons un slogan... Un cri de combat. Ce cri, c'est « No pasarán ». Ils ne passeront pas. No pasarán. No pasarán.
Camarades, demain n'appartient qu'à nous.
Nous serons des hommes libres.
Dans quel monde on vit ?
Sur la première.
Avec Pascal Claude.
No pasarán, ils ne passeront pas, un slogan politique. Le cri de ralliement des républicains espagnols pendant la guerre civile. Vous revenez sur cette période, Lydie Salver, sur cette période de l'histoire dans Pas pleurer, votre roman, prix Goncourt 2014, aujourd'hui adapté au théâtre et à voir en ce moment aux poches à Bruxelles. C'est votre mère qui a perdu la mémoire et qui ne se souvient que de cet été 36 qui vous raconte. Il y a aussi la voix de Georges Bernanos, écrivain catholique qui dénonce les méfaits commis par les nationalistes, l'épuration systématique des suspects. Et l'Église qui soutient, l'Église espagnole est devenue la putain des militaires épurateurs, écrivez-vous. Et page 90, vous ajoutez « Qu'ai-je moi-même, me dis-je, à gagner à la faire revivre cette entreprise ? À quoi bon touiller cette saloperie dont l'univers s'est écœuré ? Aujourd'hui, avec un petit peu de recul... Vous le savez de manière un peu plus précise.
Au fur et à mesure que je l'écrivais, j'en voyais, j'en discernais un peu les raisons. Et parmi ces raisons, l'écho qu'éveillait en moi ce qui se passait dans le présent. Au fur et à mesure que j'écrivais, j'avais le sentiment que ce qui s'était passé en 36, c'était la répétition générale de ce qui se passait en ce moment.
Et c'est ce que vous vous dites encore aujourd'hui, en 2017 ?
Oui, je trouve qu'il y a des ferments. Évidemment, l'histoire ne se répète jamais à l'identique, mais je trouve qu'il y a des ferments aujourd'hui qui ressemblent désespérément aux ferments de 36.
Vous pensez à quoi en particulier ?
Je pense à la montée des nationalismes, je pense à la montée des fanatismes religieux, je pense au déni, puisque vous parliez du déni tout à l'heure, le déni dont parlait Bernanos aussi, cet aveuglement...
Il a tenté de comprendre ce qui s'était passé.
Cet aveuglement devant ce qui est sous nos yeux et que nous ne voulons pas voir. Et il était... toujours stupéfait de cet aveuglement des hommes qui ne voulaient pas voir que la guerre de 36 annonçait un désastre bien pire. Et ils cherchaient à la comprendre et ils disaient ce n'est pas un défaut d'information, ce n'est pas de la bêtise de la part de ceux qui sont dans ce déni, puisque les plus grands esprits à l'époque étaient dans le déni. C'est une passion. Et Lacan parlait de passion de l'ignorance. Et je trouve que c'est tellement juste, une passion irraisonnable, irraisonnée.
Et quels sont les dénis d'aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on ne voit pas ? Qu'est-ce qu'on ne veut pas voir ?
Les dénis devant cette Europe que je trouve malade, mais qui a, j'espère, un certain avenir. Le déni en France devant ce qui agite les banlieues. en tout cas, c'est un déni qui a pesé longtemps. Mmh. J'ai travaillé dans une banlieue pendant des années, à Bagnolet.
Vous avez été psychiatre?
J'étais pédopsychiatre, et lorsque je disais à mes amis de gauche ce qui s'y passait, lorsque je disais que des enfants parlaient sans cesse des mécréants, des blancs, et des juifs qu'il fallait zigouiller, mes amis de gauche me disaient « Mais enfin, Lydie, pas toi, tu ne vas pas dire ça ». Il ne fallait pas dire ce qui couvait désespérément dans les banlieues françaises, par exemple. Mmh. On commence un peu à regarder cette réalité en face, mais on a encore du mal.
Autrement dit, vous n'avez pas été surprise par ce que nous avons vécu ces dernières années, depuis janvier 2015 en France et puis
si,
en Belgique.
J'ai été surprise, évidemment, comme tout le monde, au premier attentat, mais c'est vrai que la chose couvait depuis des années et que la gauche, comme la droite, fermait les yeux devant cette ghettoisation des banlieues, l'emprise des salafistes dans les banlieues et dans les mosquées, etc.
Il y a un lien entre le fanatisme de 36 et des années suivantes en Espagne et le fanatisme d'aujourd'hui, le fanatisme de Daesh?
C'est le même. J'ai l'impression que c'est le même. Oui.
Lydie Salver, dans le roman, vous vous arrêtez aussi sur le mot « national ». Il me semble que je commence à savoir ce que le mot « national » porte en lui de malheur. L'histoire sur ce point abonde en leçons déplorables. J'incline à penser pour ma part qu'un certain nombre de ceux qui aujourd'hui s'emparent de ce terme et le brandissent tel un étendard le font à seule fin de masquer leur projet d'un triage entre les nationaux et les non-nationaux et de discréditer ces derniers, puis de les marginaliser, puis de s'en débarrasser comme on le fait des parasites. Ça fait froid dans le dos, ça, dit Salver.
Mais je m'étais juré de ne pas insister sur la chose politique dans le roman, et parce que c'est ma faiblesse et ma tentation. Mais à propos du mot nation et nationalisme, là je n'ai pas pu m'empêcher de dire ce que j'ai écrit et que je redis aujourd'hui avec force, vu qu'un parti a le mot national sur son front et a une ampleur considérable en France aujourd'hui.
Dans une tribune pour un journal français, c'était après les attentats de janvier 2015, vous avez écrit notamment ceci. « J'ai tendance à penser que la haine n'est la plupart du temps que le fruit amer de l'incompréhension, laquelle consiste à croire que celui qui se trouve sur l'autre rive, celui que dans les traités de philosophie on appelle l'autre, est forcément l'adversaire, forcément le méchant. Mais alors, qui est l'autre, selon vous, l'ami ? Le gentil ?
Surtout pas, non. Et il y a du bon dans le conflit et dans la différence.
Quel regard devrions-nous porter sur l'autre, alors ?
Moi, j'ai simplement envie de rappeler cette phrase de Bernanos qui disait « Un esprit libre, c'est celui qui accueille la vérité d'où qu'elle vienne. » Et même du camp de l'autre.
Vous avez grandi entre deux rives, hein, la rive espagnole héritée de vos parents émigrés en France en 1939 et puis la rive française sur laquelle vous êtes né, et vous écrivez « Je me suis mise peu à peu à nager entre les deux. Cette nage entre deux rives est un sport que je me permets de recommander aux enfants comme aux adultes. » Comment on s'y prend, Lydie Salver, pour nager entre les deux rives ?
Mais on ne peut pas faire autrement. Enfin, je ne pouvais pas faire autrement dans mon cas, puisque j'avais un pied sur la rive hispanique, baroque, picaresque, mal élevée, de mauvais goût, etc. Et l'autre rive sur la rive classique française, le bien dire, l'élégance, la simplicité, etc. Et il fallait bien que je m'en dépatouille.
Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous conseillez ce sport ?
Parce que il m'a été profitable, et j'ai la faiblesse de penser qu'il serait profitable aux autres de faire vivre plusieurs voix. Rien ne fait plus peur que les livres écrits d'une seule voix. Rien ne me fait plus peur que les choses d'une seule voix, monomaniaque.
Lydie Salver, pas pleurer, c'est aussi un été avec de l'amour, de la passion, l'espoir du changement, d'un monde nouveau, et une défaite finalement pour les Républicains, une victoire pour le camp de Franco. Et il y a cette phrase dans le livre, on a perdu une guerre, mais on a gagné le sens de la lutte. Une phrase d'ailleurs mise en avant dans la version théâtrale de pas pleurer. Oui. C'est une phrase clé pour vous, ça ?
Oui. c'est dire que même si une lutte n'emporte pas la victoire sur le moment, mais je crois que c'est une chose que vous dites à votre manière, elle ne peut que faire avancer les choses.
Lydie Salvert, plus récemment, vous avez publié votre petit traité d'éducation lubrique.
Tu vas et tu viens entre mes reins et je te rejoins.
Et voilà ce classique de Gainsbourg en guise de mise en jambe ou d'amuse-bouche, si j'ose dire. Dans ce livre, Lydie Salvert, vous décrivez les phases de l'acte fornicatoire, comme vous l'écrivez. Faites l'amour et pas la guerre en ces temps de terreur, c'est le message que vous souhaitez faire passer.
C'est un livre que j'ai écrit pour rire un peu, pour sourire plutôt. Et pour défendre des passions joyeuses. Encore que faire l'amour ne soit pas toujours une passion joyeuse. Bataille disait combien il y avait de désirs de mort aussi dans l'acte d'amour.
Dans cet essai, vous parlez du baiser et du côté désagréable engendré par la moustache de l'homme. Et vous écrivez, page 18, un conseil donc, pour obtenir un succès d'estime en matière érotique, rasez-vous, vous voyez que j'ai fait un effort. Si vous êtes journaliste et barbu, n'hésitez pas de surcroît à donner votre démission, deux précautions valent mieux qu'une. Thierry, vous vous êtes rasé aussi, mais vous êtes toujours journaliste, vous n'avez toujours pas démissionné. Quel est le problème avec les journalistes et le sexe, Lydie Salvert?
Dans un autre chapitre, je parle des personnes anaphrodisiaques, c'est-à-dire qui interdisent le désir et l'empêchent. Et je cite les psychiatres, rassurez-vous, dont je suis, les culs serrés, les cupides, et les journalistes, entre autres.
Mais pourquoi donc? Ça me tracasse, du coup.
Parce que certains sont un peu rabat-joie pour un écrivain lorsqu'ils sont méchants, par exemple.
Ah voilà, c'est une sorte de vengeance.
Oui, c'est une pure vengeance mesquine.
Vous écrivez encore, n'oubliez jamais ce conseil d'Oscar Wilde, le seul moyen de se délivrer de la tentation, c'est d'y céder. Vous l'avez souvent en tête, ce slogan?
Mais toujours. Non, mais j'ai du mal à garder mon sérieux pour parler d'un livre que j'ai fait un peu par-dessus la jambe, pour le dire vulgairement. C'était une sorte de parenthèse pour sourire. Et pour dire aussi que la littérature, ça n'est pas forcément le sérieux, le solennel, le drapé, etc. Qu'il y avait aussi occasion de rire et de sourire et que la littérature est faite aussi de cela.
Pour terminer, Lydie Salvert, j'aimerais encore que vous nous lisiez les derniers mots de ce petit traité d'éducation lubrique. Nous vous écoutons
avec plaisir,
attentivement.
Avant que la mort ne nous vienne, aimez ardentement. Allez boire l'entrée aux lèvres douces de vos amants, aux fentes fraîches de vos maîtresses, et savourez leur goût de mer. Livrez-vous aux caresses, aux tendresses, aux folles fantaisies, aux saintes pamoisons, aux huit béatitudes, aux vertiges, aux orages, à toutes ces délices qui de bonheur nous font trembler et nous font désirer infiniment de vivre. Nous ne savons rien de meilleur.
Merci beaucoup Lydie Salvert, vous restez avec nous. Bonjour François de Smet.
Bonjour Pascal.
Un numéro de Pop Philo ce matin dédié aux anti-systèmes.
Ben oui, tout le monde en parle, mais personne ne l'a jamais vu. J'ai nommé le système, mon cher Pascal.
A tout de suite, François, et dès 11h, c'est bientôt à table avec au menu cette question récurrente. Faut-il manger de la viande? Belle matinée.
Dans quel monde on vit?
Dans quel monde on vit?
Avec Pascal Claude.
Sur la première.
Beau samedi avec nous, c'est la dernière ligne droite de votre magazine. Avant notre sélection de choix culturels pour ce week-end, place à Pop Philo avec vous François de Smet.
Il est l'ennemi rêvé, il est l'adversaire préféré de tous les candidats déclarés à l'élection présidentielle française. Et pourtant, comme dirait l'autre, il gouverne. Et pourtant, tous les candidats en sont par définition les produits. Oui Pascal, je veux évidemment parler du système. Le système, mot valise opportunément mobilisé dans cette campagne atypique et qui mérite qu'on s'y arrête quelque peu.
Bon, alors justement François, c'est quoi un système?
Bon, alors, d'après le dictionnaire, je cite, un système est un ensemble d'éléments considérés dans leur relation à l'intérieur d'un tout fonctionnant de manière unitaire.
Donc, dans un système, vous avez plusieurs éléments reliés les uns aux autres qui fonctionnent ensemble selon un plan déterminé. Dans un système, il y a ainsi à la fois pluralité et mouvement. Naturellement, il peut y avoir une tête, un cerveau qui régit l'ensemble, mais ce n'est même pas obligatoire. On peut imaginer un système où tout le monde se tient avec une cohésion d'ensemble, mais sans pyramide. Une chose est sûre, lorsqu'on dénonce un système, on dénonce d'abord les privilèges que celui-ci octroie.
Cela dit, comme vous l'avez dit, François, le combat contre le système est proposé par tout le monde.
Eh oui, Jean-Luc Mélenchon et sa 6e République, Benoît Hamon et sa rupture, Emmanuel Macron et sa volonté de renouveau, François Fillon et sa dénonciation du système politico-médiatique, et évidemment Marine Le Pen. Tous dénoncent un soi-disant système alors que tous, sans exception, sont issus soit du landerneau politique, soit des meilleures écoles de la fonction publique, soit encore ont reçu un parti politique en patrimoine familial. Ceux qui appellent à se lever contre le système sont tous des représentants des élites, reproduisant le paradoxe sur lequel Donald Trump déjà s'est trouvé élu. Alors, ça peut paraître hypocrite, et pourtant ils n'ont pas le choix. Parce que le principe même de l'élection, depuis l'émergence des démocraties modernes au XIXe siècle, a toujours reposé sur un principe de contraste.
Un principe de contraste, dites-vous, voulez dire que le candidat doit montrer ce qu'il n'est pas plutôt que ce qu'il est, c'est ça ?
Ben oui, c'est plus rapide et plus efficace. Être élu par définition, c'est être saillant. C'est disposer de qualités qui font ressortir par rapport aux autres, tout en faisant de vous un bon représentant. Alors énoncé comme ça, on voit bien que c'est en principe impossible, c'est là tout le charme et le drame de la démocratie. Or, les démocraties électives, héritées des révolutions, suggèrent certains auteurs, comme le politologue Bernard Manin, sont par définition élitistes, puisqu'elles encouragent les candidats à mettre en avant les différences avec la masse. Simplement, dans le discours, il est de plus en plus difficile pour l'élite de se vendre en tant qu'élite. Personne ne peut dire « votez pour moi parce que je suis plus intelligent que vous ». Donc, il faut, dans une démocratie moderne, parvenir à vendre sa différence, son contraste avec le cadre, sans heurter de front la masse vis-à-vis de laquelle on se différencie, c'est-à-dire les électeurs. Et cela ne peut se faire soit sur le dos de gens qui ne votent pas, les étrangers, l'Union européenne, le reste du monde, ou bien sur le dos du méchant système, quand bien même il serait impossible d'expliquer franchement ce que c'est. Pour le dire simplement, Pascal, il n'y a pas de système, il n'y a que des dénonciateurs de système.
L'envers du système grâce à votre savoir philosophique, c'est chaque samedi sur La Première. Merci François de Smet.
Bon week-end.
Bon week-end. Si vous avez envie de passer un peu de temps en contact d'une belle dose de culture, alors voici nos choix culturels pour ce week-end. Lydie Salver, que nous conseillez-vous ?
J'avais envie de défendre le livre de Tanguy Vielle.
Ah oui, magnifique.
Aux éditions de Minuit, qui est vraiment magnifique. Un livre politique au beau sens, au sens nietzschéen du politique. La grande, la belle politique, celle du vivre ensemble et des singularités, etc.
Il est magnifique. Son titre ?
Code 353 du Code civil, Tanguy Vielle, aux éditions de Minuit. Je vous en recommande la lecture, magnifique. Vous l'avez aimé aussi ?
Je ne dis
aussi.
Pas mieux, j'ai adoré.
Moi, j'ai adoré. Et tous les gens que je connais l'ont adoré. Et qui nous réparent tellement aussi, qui nous réparent.
Geneviève.
Oh, moi, c'est le festival XS au Théâtre National. C'est des courtes formes, 15-20 minutes, oui. Du cirque, de la danse, du théâtre. Des courtes formes et de Belgique, bien sûr. Mais il y a une performance iranienne. Il y a des Espagnols, il y a des Français, il y a plein de choses.
Thierry ?
Le livre de, encore un livre, de Laurence Van Rumbeek, journaliste au Vif l'Express. Je veux pas faire de la retape stupide. C'est pas un roman, c'est pas un essai, c'est pendant un an, les médias parfois peuvent travailler en profondeur aussi. Elle a accompagné deux victimes des attentats de Bruxelles, les deux insistent sur le terme de victime, et les a accompagnées dans ce qui se passe depuis. Elle continue toujours.
La vie après.
Voilà, ça s'appelle Bruxelles, 22 mars 2016. C'est sorti à Renaissance du livre. C'est pas glauque, c'est pas Petit fait des crêpes non plus, évidemment. Mais au bout du compte, ça répare tout le monde et ça montre que on est toujours debout.
Fabien Seunier.
C'est une bande dessinée qui s'appelle Stupor Mundi, la stupeur du monde. C'est un surnom pour l'empereur Frédéric II au Moyen-Âge, qui est aussi un mécène de scientifiques, et donc au Moyen-Âge, c'est plutôt des alchimistes avec des laboratoires un peu déjantés. Et il y a un savant arabe qui débarque dans sa forteresse d'érudits pour développer la photographie. Alors, l'ambiance est totalement bizarroïde, ça fait beaucoup de bien à lire, et puis derrière ça, il y a un thème qui est le rôle de la connaissance et des souvenirs dans une société où la photographie pourrait se développer.
Grégoire Pollet.
Eh bien moi, puisque c'est les 60 ans des traités de Rome, je dirais d'aller voir sur Arte ce soir, Arte plus 7, hein, c'est sur le web, parce que pendant encore 3 ou 4 jours, le documentaire Dans les coulisses du traité de Rome, qui est un film de Martin Fraudreau. J'ai collaboré à l'écriture du scénario.
Largement collaboré quand même.
Oui, oui. Et donc voilà, ça se voit encore pendant 3 ou 4 jours sur Arte, c'est instructif.
Et de mon côté, je vous recommande d'aller voir Apocalypse Bébé, le texte fort d'une romancière française. C'est Virginie Despentes, texte adapté au théâtre par Selma Alaoui. Ça raconte la violence d'une époque, la violence de notre époque, avec une brillante intensité. Ça se passe au Varia à Bruxelles. Et ne traînez pas parce que la dernière, c'est déjà ce soir. À voir en revanche jusqu'au 8 avril, cette fois, Pas pleurer, l'adaptation de votre roman Lydie Salvaire par Denis Laujol. C'est au théâtre de Poche à Bruxelles. Merci beaucoup, Lydie Salvaire, d'avoir été avec nous ce matin.
À
lire également tous, c'est votre nouveau roman, Grégoire Paulet. Merci Grégoire.
De rien.
Et puis merci également à nos débatteurs Thierry Fiorilli, Geneviève Dama et Fabien Seunier. Beau week-end.
Merci.
Au revoir.
À vous.